Alors j'avais trois questions, Guise de Mélie, à poser. Alors je les pose aux enfants, bien sûr, mais à chacun d'entre nous. La première question, c'est pourquoi Jésus a-t-il appelé des pêcheurs? Alors des pêcheurs avec un accent circonflexe, des gens qui vont à la pêche. Il appelait forcément des pêcheurs avec un accent aigu, on est tous pêcheurs, donc là forcément. Pourquoi il appelait des pêcheurs? Ça c'est la première question. La deuxième question, quand il parle du règne de Dieu qui est tout proche, qu'est-ce que c'est que le règne de Dieu? Qu'est-ce que c'est que le règne de Dieu? Quand Jésus nous dit le règne de Dieu est tout proche, est-ce que c'est un concept? Est-ce que c'est un truc un peu compliqué? Ou est-ce que c'est quelque chose de proche, précisément, règne de Dieu est tout proche? Et la troisième question, c'est convertissez-vous. Qu'est-ce que cela signifie pour nous de se convertir? Alors je vais essayer de répondre, mais peut-être que, comme hier à Saint-Lazare, des gens sont venus me voir après la messe en disant, mais ils avaient d'autres réponses à celles que j'ai proposées. Et ça serait mon rêve, c'est qu'à la sortie de la messe, preuve que certains écoutent, vous veniez me voir en me disant, mais peut-être qu'il y a aussi cette raison-là, ou ce sens-là. Ça va? Vous dormez pas? On est parti. Première question. Pourquoi Jésus a choisi des pécheurs? Alors, il y a la solution de facilité de se dire, bah, il a pris ce qu'il avait sous la main. Il était sur le bord du lac, alors il a choisi ceux qui étaient là. Ou alors, il a choisi des gens sympas avec qui il s'entendait bien. Il s'est dit, je vais prendre, je les ai déjà croisés, ils ont l'air sympathiques. Ou alors, il s'est dit, bah, moi, je connais bien le milieu des artisans, puisque son papa était charpentier. Je vais aller voir un autre milieu professionnel, comme ça, pour découvrir autre chose. Bon, ça, c'est des motivations peu curieuses. Moi, je crois que, en tout cas, je vois trois raisons dans ce choix des pêcheurs. La première raison, qui me semble être importante, c'est qu'il sait qu'en choisissant des pêcheurs, il a affaire à des gens qui bossent, des gens qui n'ont pas peur de travailler. Je suis désolé, hein, peut-être que certains parmi nous ont peur de travailler. Mais en tout cas, les pêcheurs, alors je ne parle pas des pêcheurs à la ligne hein, qui prennent leurs pliants et puis leur thermos de bière hein, le long au bord de la Sarthe, hein. Pas du tout ça. Les pêcheurs du lac de Tibériade, comme les pêcheurs qu'on peut connaître aussi sur nos côtes, eh bien ce sont des gens qui bossent. Ils ne comptent pas leur temps. Ils prennent des risques. Ils avancent au large. Ils partent loin. On a fait une réunion de prêtres pour préparer le synode et on est allé à Saint-Malo. Et dans le cadre de cette session de, entre guillemets, de travail, on est allé visiter le musée des Terre-Neuve, de ces marins qui partent de nos côtes, qui partaient, parce qu'aujourd'hui ça ne se fait plus, pour aller pêcher sur les côtes du nord de l'Amérique, Canada. Et alors, c'est incroyable ces conditions, ces gars qui partaient pendant 6 mois. Et qui pêchaient non-stop. Ils s'arrêtaient juste quand vraiment le temps était exécrable, que c'était impossible. Voilà, et nombreux sont ceux qui sont restés sur la banquise là-bas. Je crois que le métier de pêcheur, c'est un métier exigeant. Et quand on n'est pas sur son bateau à pêcher, on entretient le matériel, la barque, on entretient les filets. Et Jésus, il a besoin de gens qui n'ont pas peur d'aller de l'avant. Il a besoin de pêcheurs audacieux. Je pense que c'est une des premières raisons. Deuxième raison, c'est que les pêcheurs, ce sont des gens qui travaillent en équipe, qui n'ont pas peur de travailler avec d'autres. Alors c'est exigeant de travailler en équipe, parce qu'il faut prendre soin des autres, il faut être attentif, il faut les écouter. Il faut savoir se réunir de temps en temps, faire des choix, débattre. Mais on voit bien qu'il a choisi une équipe de 12 apôtres, presque l'équivalent d'une équipe de foot. Ce n'est pas par hasard. Parce qu'on a besoin de travailler en équipe. Et le synode qui se présente à nous est l'occasion, voilà, d'entrer dans cette démarche. C'est un peu exigeant, il faut prendre du temps, il faut se réunir. Mais l'Esprit Saint parle, et il parle quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il a besoin d'apôtres, il a besoin de personnes qui sont dans cette disponibilité de travailler en équipe. Et puis la troisième raison que je donnerais pour le choix de ces pêcheurs, ce sont des hommes qui savent regarder le ciel, qui savent regarder la mer, qui ont un petit sens, vous savez, on va aller pêcher par ici, on va aller faire ceci, on va aller faire cela. Vous savez, ils ont un sens inné de quelque chose de particulier. Ce ne sont pas seulement des exécutants sur une machine. Voilà, une perception du monde qui les entoure et qui les amène à poser des choix parfois de manière un peu spontanée. Les apôtres, voilà, il faut qu'ils aient ce sens aussi de l'observation, d'accueillir aussi la volonté du Seigneur et de poser des choix parfois un peu étonnants. En tout cas, voilà, ce sont les trois raisons que je donne dans ce choix des pêcheurs. Et une fois qu'il a choisi ce noyau-là, il va en appeler d'autres. Mais peut-être que ce noyau-là, précisément, il est le moteur, avec évidemment au centre, Pierre. Tu es Pierre. Deuxième question, alors vous avez peut-être des réponses à m'apporter. Quand Jésus dit « Le règne de Dieu est tout proche », Émile, ça te fait penser à quoi ça ? « Le règne de Dieu est tout proche », pauvre Émile. « Le règne de Dieu est tout proche », qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est... Souvent on pense, en tout cas moi je pense à ça, vous savez, au règne. Alors on a dans notre histoire de France, de nombreux règnes qui se sont succédés avec des rois plus ou moins glorieux. Le seul qui sort un peu du lot, à mon avis, c'est Saint-Louis. Un peu un mystique, voilà, qui n'avait d'autre volonté que presque d'être moine, en fait. Bon, il a régné, et il a fait son devoir, mais voilà, c'est souvent un peu décevant quand on imagine le règne de Dieu à la manière du règne des hommes. Donc, essayons de nous déconnecter de ces images et rentrons dans ce que Jésus nous dit. Quand il dit « le règne de Dieu est tout proche », c'est simplement sa personne, c'est la personne de Jésus qui est tout proche. Et quand Jésus nous dit maintenant, aujourd'hui, à 11h du matin, à Notre-Dame-du-Pré, qu'il est tout proche, c'est qu'il est là. Ce n'est pas un concept philosophique, un projet politique. C'est une réalité. Jésus est là. Il est là présent. Comme il sera présent, de manière particulière, pour ceux d'entre nous qui feront leur première communion. Mais il est déjà présent, aujourd'hui. Il est là, au milieu de nous. Et donc cette proximité, il ne reste à nous qu'à nous avancer, qu'à ouvrir, en fait, même plus simplement, qu'ouvrir notre cœur pour accueillir sa présence. Et donc le règne de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'utopique, d'inaccessible, c'est une réalité. Et ce règne de Dieu, il est présent, on le voit bien dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, quand on essaie de vivre la communion, quand on essaie de se parler, quand on essaie d'être ensemble, de vivre des choses simples et vraies chaque jour. Et puis la dernière question, qu'est-ce que c'est que la conversion ? Alors peut-être certains se disent, moi j'ai un certain âge, j'ai plus besoin de me convertir. Je vais à la messe le dimanche, je fais ma prière, puis j'ouvre mon petit prier en église, ce qui est très très bien, hein. Mais je crois que la conversion, c'est quelque chose de permanent. On a bien vu Jonas dans la première lecture. Voilà, il invite les habitants de Ninive à la conversion. Et donc la conversion, c'est pour chacun d'entre nous, qu'on soit enfant de cœur, prêtre, parent, grand-parent, enfant. Tous, on est appelés à cette conversion. Moi, je vais vous donner des chemins de conversion très simples et très concrets. La conversion, c'est concret, hein. D'abord, je pense à quelque chose qui approche, c'est le carême. Le carême. Alors, tout le monde pense tout de suite, il faut manger moins de chocolat. On va laisser tomber les chocolats, ce n'est pas le problème. Comment je vais vivre mon carême ? Et n'attendons pas le mercredi des cendres pour nous poser la question du carême. Le carême, c'est maintenant. Je ne pense pas que vous préparez votre repas de Pâques lors de la veillée pascale, quand Jésus est ressuscité. Les mamans, vous préparez votre repas de Pâques un peu à l'avance quand même. Myriam, oui, bon. On prépare à l'avance toujours son repas de Pâques. On n'attend pas la fin du carême, minuit, le samedi saint. Non. Eh bien c'est pareil, le carême, il faut le préparer à l'avance. Qu'est-ce que je vais faire de mon carême ? Sur quel point je suis invité à la conversion ? C'est maintenant qu'il faut y penser. Parce que le carême, c'est, je crois, c'est le 14 février, c'est très très bientôt. Deuxième point de conversion aussi, c'est le synode. Alors on peut regarder le synode qui va s'ouvrir dimanche prochain à la cathédrale comme quelque chose d'un peu distant, c'est l'évêque dans son évêché qui a concocté ça. Ou au contraire, avoir un cœur ouvert et se dire, mais quelle pierre je peux apporter à l'édifice? Comment je peux m'investir personnellement? Comment je peux me convertir avec ce chemin qui m'est proposé? Alors, il est possible de constituer des équipes. Alors, c'est un peu exigeant, hein, d'aller voir des personnes. Est-ce que vous voulez qu'on se réunisse? C'est 5 rencontres pendant 6 mois, donc ça laisse un peu de temps quand même. Mais voilà, c'est un acte de volonté, c'est quelque chose de concret. Et on trouvera autour de nous des chemins de conversion dans nos vies personnelles, dans nos vies quotidiennes, où on essaie de se décentrer, de mettre vraiment le Seigneur au centre, de mettre vraiment mon prochain au centre, mon conjoint, de mettre au centre mes enfants, de mettre au centre celui que je côtoie chaque jour, et de ne pas être le centre du monde. Alors, je voudrais vous inviter à prier pour une personne de notre ensemble paroissial qui se prépare dans quelques jours à entrer dans une communauté monastique. Oui, il existe encore des vocations à la vie consacrée, des vocations au sacerdoce. Voilà cette radicalité de faire ce choix d'entrer dans une communauté pour vivre un rythme de prière, de vie fraternelle, au plus près de l'Évangile. C'est important qu'il y ait des gens, des personnes, des priants pour le monde, pour l'Église. Et je voudrais aussi évoquer simplement ce qui nous est arrivé cette semaine à Saint-Pavin avec la prière de la gendarmerie, des représentants de toutes les unités de gendarmerie de la Sarthe qui se sont retrouvés à Saint-Pavin avec cette très belle prière qui terminait la messe, la prière du gendarme chrétien. Je ne sais pas si chaque corporation a sa prière, en tout cas une très belle prière, une invitation à la maîtrise de soi, une invitation au bien commun, une invitation à la recherche de la vérité, de l'attachement au Christ. Peut-être que précisément un gendarme chrétien, c'est une conversion quotidienne dans toutes les situations qu'ils peuvent rencontrer. Alors, peut-être qu'on n'est pas des pêcheurs, mais voilà, Jésus nous attend et Jésus nous appelle, chacun où nous sommes, parce qu'il est proche, le règne de Dieu est tout proche, et pour qu'il soit encore plus proche, cherchons ensemble des vrais chemins de conversion. Amen.